Une des clés du succès est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. C'est pourquoi nous nous préparons toujours pour renforcer notre confiance pour l'unique succès qui est celui de vous servir. Amis auditeurs de la radio Serré, sentez-vous salués et bienvenue à votre émission Interligne. Il suffit de savoir lire entre les lignes pour voir ce vide en dire plus que des mots. Entre les lignes de Interligne pour cette édition, le soir au village dans la culture Giziga et au rendez-vous. Jupe taille haute au body, un style d'habillement adapté par les filles. On en parle dans Tape à l'œil. Pour vider ton sac, nous allons parler des motos taximans. Pour vous servir, l'équipe est composée de David Bayan assure la coordination. Je suis Zuhaira Touyaya. Asseyez-vous confortablement, nous allons commencer. Notre culture nous permet de forger une identité propre, d'exprimer notre créativité, de préserver le sentiment d'appartenance à la communauté. Les expériences culturelles offrent des occasions de loisirs, de divertissement, d'apprentissage et de partage d'expériences avec les autres. Nous irons dans la culture Giziga avec l'association culturelle Giziga en abrégé ASEGI qui fait la promotion de sa culture. Écoutons cet entretien avec le conseiller de ASEGI.
Azilikia Sidichinabi est professeur de lycée d'enseignement général Igiltra Anglisengi Katwal. Donc, Angi ASEGIBO est conseiller en bureau des jeunes. À Seguima, des membres Mangi à Seguibo et conseiller Vunama.
Ok, monsieur Sidi, dans la culture Giziga, comment est-ce que le soir au village se passe?
Le soir au village dans la culture Giziga est une activité qui est généralement menée par l'association culturelle des élèves et étudiants Giziga, qui est un démembrement du bureau national des jeunes. Voilà. Donc, dans leur cahier de charge, ils ont donc ce qu'on appelle le soir au village. Le soir au village est une activité qui consiste à réunir tous les enfants Giziga de tous les horizons autour d'un feu le soir. Et on retrace un peu les activités qui sont menées généralement dans nos différents villages, à savoir les contes et légendes de chez nous, les danses patrimoniales et bien d'autres activités, les repas, le type de repas que nous mangeons chez nous et tout ça. Donc, nous menons dans ces activités. Alors, comment est-ce que ça se passe dans le concret? Dans le concret, à partir de 18h, le feu, on allume le feu, on installe les différents tam-tams qu'on appelle chez nous en Giziga le badak. Il y a le badangititi et à travers le badangititi, on va donc danser les danses comme le tchawal, le mambay. Voilà, c'est nos danses que nous avons l'habitude de pratiquer. Alors, lorsque les différents tam-tams sont installés, et que la foule y est là, alors on allume le feu. On s'assoit autour du feu. Et différents membres donc, de l'association qui ont l'habitude d'aller dans les villages nous comptent donc, les histoires exactement comme ça se passe au village autour du feu. Alors on a les histoires comme les jeux également. On a un jeu qu'on appelle chez nous, on donne le nom des animaux et vous êtes debout si vous donnez le nom. Si on demande si c'est un animal, un oiseau ou bien un mammifère, si vous dites oiseau alors que c'est un mammifère, vous êtes éliminé. Voilà, ça permet donc à la jeune génération Giziga de se familiariser avec les différents noms des animaux, des plantes, des oiseaux et tout ça. Alors, une fois cette partie-là terminée, on entame donc la partie danse patrimoniale. Dans la danse patrimoniale, il y a l'un de nos membres toujours, parce que les acteurs ne viennent pas d'ailleurs. Les acteurs sont purement jeunes Giziga. Alors, ces acteurs jeunes Giziga, parmi nous, il y a un qui se lève et se met à taper le tam-tam. En tapant le tam-tam, on danse tout autour du tam-tam. En dansant tout autour, on chante d'abord les chants comme le tchawal. Bon, si je peux m'esquisser un peu, en tchawal, on dit Malamba Kamagana Bumbulvong Prali, Malamba Kamagana Bumbulvong Prali. Comme pour dire, le mal que tu fais là, Dieu te voit. Donc, ce que tu fais dans, en cachette, Dieu te voit. Voilà. Donc, après ça, on arrête un moment, on dit Ariam. Ariam qui veut dire sous l'eau. Et quand tu es sous l'eau, tu nages. Et nager consiste donc à battre les épaules. Donc, comme vous voyez, la danse, on danse avec les épaules. Quand on dit Ariam, on danse avec les épaules. Alors, quand cette phase de danse est finie, on se réassoit autour de notre feu. Et maintenant, on partage le repas en famille. Le repas, généralement, c'est... Il y a le hambaka. Je ne sais pas comment on appelle ça en foufoulé, mais le hambaka, je pense que c'est dubao, un truc comme ça. Voilà, le dubao, chez nous, on appelle ça hambaka. Il y a le mitikavai qu'on appelle le tasba. Voilà, généralement, c'est ces deux repas-là qu'on fait. Et à côté, on ajoute le mumbrukotok. Le mumbrukotok, c'est les carpes. Je ne sais pas comment je peux... Comme pelpele dit comme ça, mais carpes. Et on brûle tout simplement autour du feu, sur le feu. Et on aromatise. Et c'est bon. Voici un peu dans, de manière détaillée ce qui se passe lors de notre soir au village.
Après ces danses et tous ces racontes de contes, comment vous séparez?
La séparante se fait toujours par l'échange, parce que l'homme Giziga ne peut pas se séparer s'il n'y a pas le mouzoum. Le mouzoum, c'est le vin. Voilà, il y a le mouzoum qui accompagne nos soirées. Et il y a, bon, vous savez, avec le multiculturalisme aujourd'hui, avec la prolifération des religions dites révélées, il y a les chrétiens, il y a les musulmans. Parce que l'association est purement laïque, il faut le préciser, laïque. Alors, il y a les chrétiens, il y a les musulmans. Alors, les chrétiens, ou alors, je peux ne pas gérer, parce qu'il y a même les chrétiens qui ne boivent pas. Voilà. Ceux qui boivent du vin, boiront du vin, dans le bilibili essentiellement. Ceux qui ne boivent pas du vin, vont boire soit le mbalda babara, en français on dit le vin blanc, mais c'est un vin blanc typiquement de chez nous, ou alors le kounou. Voilà. Et à la fin, donc, on se sépare avec des accolades, avec des embrassades, on se souhaite les bonnes nuits et chacun rentre chez soi. Et maintenant, le président du comité d'organisation sera sûr que chaque personne est arrivée. Parce que tout le monde, en partant, prend le numéro du président du conseil d'organisation et l'envoie un message pour dire « Je suis bien arrivé, ok, je suis bien arrivé, ok. » C'est
un peu ça. Et où vous l'organisez bien souvent?
Le soir au village est toujours organisé au foyer culturel Giziga, le foyer culturel de la Ségui. Donc, si vous ne connaissez pas le foyer culturel de la Ségui, c'est au Comis, lieu dit marché du poisson frais. Voilà, si vous arrivez à ce niveau, ça ne se perd pas, juste en longeant à quelques mètres du démembrement de l'ONU, qui est juste à côté là. Voilà. Ils partagent même la même barrière.
Et en organisant, est-ce que c'est essentiellement les jeunes qui le font ou bien vous le faites aussi avec les parents?
Bon, généralement, nous invitons les parents. Mais lorsque les parents viennent, ils ne sont pas acteurs. Ils sont juste spectateurs. Parce que l'objectif pour nous, c'est de montrer à nos parents que nous ne sommes pas dépaysés. Que quelque part, nous sommes là et que la relève est bien là. Donc voilà, donc quand nos parents viennent, ils sont assis. Mais de temps en temps, ça n'empêche que de temps en temps, on a recours à leur expertise. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut demander que, bon, ceci, est-ce que, voilà, ils nous donnent le fil à tenir.
Lors de l'organisation, alors?
Non, pendant le déroulement de la séance.
Ok, à présent, vous allez nous parler de l'association ASEGI. C'est quoi ASEGI?
ASEGI, étymologiquement, ASEGI veut dire Association culturelle Giziga. Association culturelle Giziga. Et je vais embrayer sur la prochaine question que je vois venir pour dire que l'association culturelle Giziga a été créée dans les années 80-90. Et l'objectif de base était justement de ramener les frères Giziga qui étaient en prise au phénomène de fulbéisation et dans le Diamaré, dans le bassin du Diamaré, les Giziga étaient en prise à la fulbéisation, qui est ce processus-là qui consiste à délaisser sa propre culture pour épouser la culture Peul. Voilà. Et également dans le Mayokani, puisqu'il y a une très grande famille Giziga dans le Mayokani avec le clan des Midiving, voilà, dans cette partie également, les Giziga Midiving avaient tendance à se considérer comme des Mundans. Voilà, la Ségui est donc créée, cette époque-là, pour rappeler aux Giziga de ne pas perdre de vue qu'ils sont un peuple à part entière et qu'ils ne devraient en aucun cas oublier qui ils sont. Voici donc l'objectif de base de la CEGI depuis sa création. Et comme toute société qui évolue, la CEGI évolue avec son temps.
Et quels sont les objectifs de la CEGI?
Comme je le disais tantôt, l'objectif principal, c'est de rappeler aux jeunes et même à la communauté Giziga tout entière qu'ils sont là, qu'ils sont dans un ensemble, dans un monde globalisé où il faut montrer, il faut prouver ses marques. Alors, on prouve ses marques comment? Justement, en n'oubliant pas ses traits culturels. Premièrement, la langue, parce que notre langue nous identifie. Voilà. Nous sommes dans une zone sahélienne où nous avons presque le même faciès. Voilà. Et maintenant, pour nous différencier, il n'y a que la langue. Voilà. Et également, à côté de la langue, il y a la promotion de nos objets d'art. Dans le foyer culturel Giziga de la CEGI qui est en train d'être achevé, et en même temps, une salle de réunion, une salle de fête, mais également un musée. Voilà, il constitue un musée où les objets d'art Giziga seront exposés et quiconque passera dans la ville dira « Ici, vivent, ont vécu et vivront les Giziga ».
Et concrètement, quelles sont les actions que la CEGI mène donc pour atteindre tous ces objectifs-là?
Voilà, les objectifs de la CEGI, bon, je ne suis pas une voix à viser pour parler des objectifs profonds de la CEGI. Parce qu'il y a
Les actions que la CEGI mène, voilà. En fait.
Bon, concrètement déjà, la CEGI mène, il y a les activités comme, à part le soir au village, puisque quand on dit déjà le soir au village, vous comprenez que la CEGI est un démembrement de la CEGI. Mm-hmm. Voilà. Hormis le soir au village, il y a également les cours d'alphabétisation en langue Giziga qui sont menés. Chaque vacances, les cours sont menés et je salue déjà le président Paul de Christophe qui voudrait même que cette activité ne soit plus réservée juste pendant les périodes de vacances, mais que ce soit échelonné sur toute l'année. Ça permettra que les jeunes Giziga qui, bon, comme on a l'habitude d'appeler de la diaspora, puissent de temps en temps s'imprégner de la langue et apprendre. Ça, c'est un volet. Deuxième volet également, il y a la traduction des livres sacrés. Mm-hmm. Voilà, la CEGI œuvre également dans la traduction des livres sacrés comme la Bible, le Coran, mm-hmm. en langue Giziga. Ce qui permettrait justement la facilitation de la compréhension des Saintes Écritures par le peuple Giziga tout entier. Mm-hmm. Voilà, et ça ne s'arrête pas là. On part jusqu'à primer les meilleurs élèves pour promouvoir l'excellence. Et il y a les semaines culturelles qui sont généralement menées. Et les semaines culturelles qui sont menées sont dans le cadre du multiculturalisme, le Cameroun étant un multipote. Donc, il y a donc ce volet-là, pour ne citer que cela.
Ok, on sait que dans chaque culture, il y a des stéréotypes qu'on les colle et tout ça. Oui. Comment la CEGI ou les Giziga le perçoivent pour eux?
Voilà. Lorsque vous parlez de stéréotypes chez les Giziga, je pense que vous faites référence au vol. On a l'habitude de dire que les Giziga sont voleurs. Mais lorsque nous regardons les gestionnaires de la fortune publique au Cameroun, je ne pense pas qu'un Giziga est déjà allé en prison parce qu'il a volé. Le vol n'est pas caractéristique de la communauté Giziga. Dans tout peuple, il y a des voleurs. Il y a des brebis galeuses. Alors, le côté vol qu'on a attribué au clan au Giziga résulte de quoi? Ça résulte au fait que lors de la conquête Peul, les peuples Giziga ont trouvé cette tactique comme moyen de pression pour faire partir les peuples de leur terre. Vous voyez, les peuples, nous savons tous qu'ils sont d'essence éleveurs. Mm-hmm. Voilà, et les Giziga sont d'essence agriculteurs. Mm-hmm. Voilà. Et maintenant, lorsque les peuples laissaient un peu leur bétail en divagation, les Giziga faisaient donc ce rapt-là, ce qui poussait les peuples à partir. Ce n'était pas un vol à proprement dit, c'était une stratégie de guerre.
Et aujourd'hui, comment les Giziga vivent-ils avec d'autres ethnies?
Il suffit de voir la ville de Maroua pour comprendre que les Giziga sont un peuple tellement accueillant. Et justement, quelque part, on a tendance à croire qu'ils sont même bêtes parce que tellement ils sont accueillants que vous allez comprendre des gens dire « Les Giziga, vous êtes chez vous, mais on ne vous voit pas. » Non, on ne nous voit pas parce que nous ne sommes pas là. Nous sommes là, mais nous sommes purement et typiquement dans la promotion du vivre ensemble, le vivre collectif. Alors, pourquoi rejeter un frère camerounais en disant peut-être qu'il est tout pourri, il faut qu'il aille dans le maillot d'Anaïk ou bien dans le maillot Kani. Ou alors il est Moundan, sa place au maillot Kani. Et il est Maf. Non, ce n'est pas ça. L'objectif de la CEGI, c'est justement la promotion des valeurs culturelles Guiziga, mais dans un élan patriotique du vivre ensemble.
Ok, vous pouvez nous donner un conte en langue Guiziga?
Conte en langue Guiziga, là c'est un peu compliqué pour moi. C'est un peu compliqué parce que je dirais, ça c'est pour mes frères Guiziga, et je vais les dire en langue Igilti Dideta. Voilà, Igilti Dideta, Yamarunga Angi, Ruin Ranairo, Yantisika Degata. Donc ce qui fait que Gwadkaba Mamba Andraina Isnata. Donc, c'est qui Gikiyafa. On a beaucoup de temps, mais on a beaucoup de temps.
Merci beaucoup à vous.
Merci pour l'opportunité que vous m'offrez de parler de ma culture qui m'est si chère et que j'aimerais bien qu'un jour on dise que la langue Guiziga fait partie des langues nationales enseignées au Cameroun.
D'accord, on l'espère.
Merci.
Nous allons à présent danser à la façon Guiziga.
Yeah.
Ça tape à l'œil pourtant, l'œil très sensible. Après cette courte transition, c'est la rubrique « Tape à l'œil ». Le style est quelque chose d'unique qui nous appartient. Il devrait être le reflet de notre personnalité et de nos goûts, tout en respectant nos besoins et notre rythme de vie. Nous devons toujours privilégier ce qui convient à notre silhouette et notre palette de couleurs plutôt que ce qui est à la mode. Toutefois, tenter certains modes ou combinaisons peut parfois se révéler très dangereux. Au fil du temps, nous apprenons à développer notre style et à l'adapter aux différentes circonstances et événements de notre vie. Un nouveau style pour les jeunes filles, la combinaison de la jupe taille haute au body. Le body, connu comme un sous-vêtement qui est aujourd'hui porté par certains comme un tricot. Une combinaison peu appréciée par la population. Écoutons ce micro-trottoir.
Concernant l'habillement, moi je dirais que ce n'est pas une bonne manière de s'habiller pour une fille décente et pour une fille vraiment bien éduquée. Parce que ce genre d'habillement-là a plusieurs conséquences. Et je peux dire, les conséquences sont nombreuses. À savoir d'abord, ça pousse même les garçons à violer les filles. Et ça représente aussi mal l'image de la fille au sein de la société. Et non seulement ça, je peux aussi dire que même la concernée, si c'est une fille qui a vraiment l'esprit ouvert, elle va même voir qu'elle est mal vue dans la société. Vous voyez un peu ça, non? Donc moi, je dirais que pour ça, là, ce n'est pas une bonne manière de s'habiller pour une fille normale et pour une fille bien éduquée au sein de la société.
Moi, je ne trouve pas ça du tout décente. Une fille quand même respectueuse, une fille bien éduquée ne peut pas s'habiller de cette façon. Imaginez-vous un seul instant qu'elle ait un accident en route ou bien quelque chose et qu'elle est habillée ainsi. Comment va-t-elle le faire pour s'en sortir? Ce n'est pas du tout décente pour une fille, surtout quand même qui vient peut-être d'une bonne famille. Et d'ailleurs, c'est l'habillement d'une fille qui détermine la qualité des garçons qui viennent auprès d'elle. Et une telle habillement montre à quel point donc, les mauvais garçons vont venir à côté d'elle. Et elle s'expose même à des dangers ou bien à l'insécurité.
Parlant des comportements, surtout les comportements extravagants et non décents qui font d'abord apparaître tout le corps de la femme dehors. De nos jours, on nous fait croire que ce sont des comportements sexistes. Et le sexy nous mène déjà vers un chemin, surtout que nos filles perdent déjà le comportement de base que la maman a donné. On voit déjà que avec ce genre de comportement, une fille, surtout une bonne fille, de bonne moralité, de bonne éducation, doit d'abord s'habiller décemment. La beauté n'est pas dans le comportement. La beauté n'est pas dans le fait de s'exhiber. Non, la beauté, elle se trouve surtout sur le fait de bien s'habiller. Je vais prendre l'exemple très palpable sur nos filles Peul, surtout précisément ici à Mawa, les filles Peul. Personnellement, moi, je dirais que l'habillement de filles Peul me plaît. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'elle se comporte d'une manière décente. Elle n'a pas besoin de s'exhiber pour qu'un homme puisse venir en face. Déjà de loin, tu peux déjà te faire à l'idée que c'est une femme qui peut être au foyer.
Et selon moi, vraiment, cet habillement n'est pas favorable. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une zone sahélienne. Donc, où est-ce que notre culture ne nous permet pas de porter ces habillements? Car l'expo de notre corps n'est vraiment pas du tout normal. Cela pourrait même attirer beaucoup d'ennuis sur nous. On peut même être insulté, on peut être violé. Avec les voyous dont nous voyons qui sont partout, cela n'est vraiment pas du tout normal pour une fille de s'habiller ainsi. Puisque même Dieu interdit les ports de certains habillements.
Et en face d'une fille qui s'habille déjà mal, la seule idée, l'idée principale qui te vient à la tête, c'est déjà d'avoir de la faire l'amour. Parce que le sexe, c'est quoi? S'habiller sexy, ça expose le sexe. C'est juste ça. Donc quand je vois ça, le fait, même si j'avais déjà l'idée de vouloir peut-être maintenir une relation à long terme avec elle, je vais essayer de tenir ça court parce que déjà, son comportement est déjà mauvais. Donc je vois que le comportement, genre les pantalons taille, ce genre, c'est un peu bien, mais faites ça avec modération, mes soeurs, parce que ça ne vous convient pas.
Je dirais que cet habillement n'est pas vraiment bien, puisque le body n'est pas fait pour porter sans haut, et de plus, on ne met pas notre corps en valeur.
Selon moi, je peux dire que cet habillement n'est pas présentable au vu de la société. Parce que elle est déviante, non? Elle n'est pas présentable, donc moi, je n'apprécie pas ça.
Un sac vide tient difficilement debout. Si vous arrivez à faire le vide dans vos esprits, vous trouverez une porte à ouvrir, voyez donc même le vide est indispensable. De même que la rubrique « Vide ton sac » pour pimenter notre émission. Dans « Vide ton sac », ceux qui ne le portent pas vont vider leur quotidien difficile. Relation moto-taximan et propriétaire de moto dans un instant. La vocation, c'est avoir pour métier sa passion, même si l'on se retrouve plongé dans sa passion pour exercer le métier choisi. D'autres se retrouvent par obligation, c'est le cas des mototaximans où l'on retrouve toutes les couches sociales, ce qui est difficile pour eux car le marché se trouve touffu. Sans diplôme ni quelconque expérience, c'est chacun qui se lance dans le métier. Écoutons ces quelques mototaximans et propriétaires sur la relation qu'ils entretiennent.
Moi, je suis un étudiant moto-taximène aussi souvent pour surmonter les activités dans la région de la ville afin de subvenir à mes besoins. Et vu que je n'ai même pas vraiment la moto, c'est une moto qui m'a été léguée donc sous forme contrat. Et ces relations sont vraiment beaucoup plus tendues entre moi et mon patron. Puisque quand souvent je cours, on me programme, je sors, je ne travaille pas. Je rentre et pour lui, ce sont les jours qui comptent. Après 10 jours, il faut que j'aille donc verser un versement. Et puis, je ne parviens vraiment pas à réunir l'argent donc total demandé. Cela donc devient un peu compliqué avec moi. Il arrive toujours, je ne pars même demander l'argent à côté à mes amis pour compléter. Et souvent, ça devient beaucoup plus donc surchargé. Je ne demande pas si je me présente avec la somme. Généralement, je devrais donc verser 20 000 après 10 jours. Si je n'atteins pas les 20 000, il se révolte. J'essaie de l'expliquer. Au préalable, il me comprenait, mais tous ces derniers temps, il ne me comprend même plus. Puisque il s'est dit que non, comme ça, il ne fonctionne pas. Lui, il avait acheté la moto pour que lui aussi, il parvienne à avancer dans ses activités. Mais là, ça devient plutôt que ça lui freine. Donc, il est arrivé même à reprendre sa moto. Il a repris la moto. À un certain moment, bon, je suis encore reparti, puisque lui-même, il n'a pas encore eu d'autres personnes à engager, vu que il est en train de reprendre la moto. Donc, tout le monde lui dit que non, si tu as repris la moto avec l'autre, il se peut qu'il reprenne encore avec l'autre. Raison pour laquelle il m'a redonné encore la moto. Je me bats, ce n'est pas du tout facile. Quand je sors le matin, souvent, si je cours le matin, je pars d'abord à l'école. Et si je rentre, je travaille un peu pour économiser un peu. J'essaie simplement donc d'organiser mon temps ou quoi. Mais de manière bref, sincèrement, ces relations sont beaucoup vraiment plus tendues. C'est un peu quand même difficile. Mais on n'en peut rien faire pour le moment. On ne peut que faire avec. Merci.
Tout d'abord, je suis un taximan plein. Ça veut dire, je fais du moto-taxi, c'est mon métier. J'ai franchement des difficultés avec mon patron vu que je suis d'abord papa de 2 enfants. Ça veut dire, je dois les inscrire à l'école et je dois chercher comment faire pour qu'ils mangent à l'école. Je dois assurer la nutrition de tout le monde à la maison. Et avec mon patron maintenant, ça devient difficile au cas où. À chaque fois que je sors, je constate sur le marché, c'est très difficile parce que les étudiants sont déjà moto-taximens. Même, je veux dire, des personnes, des fonctionnaires même déjà se retrouvent dans le métier de moto-taximens. Ça devient difficile. Du coup, quand je sors parfois, je me retrouve avec moins de 3000 francs. Vous voyez, si je dois retirer l'argent du patron et l'argent qu'on doit manger chez moi, par exemple, chaque jour, je dépense près de 5000 francs chaque jour, vous voyez que ça devient complexe. À la fin du mois, par exemple, à la fin de chaque semaine, je dois verser une somme, par exemple, de 20 000 sur mon patron. Parfois, je me retrouve à ne même pas avoir 15 000 francs. Du coup, ça devient très difficile. Et mon souci, d'abord, c'est l'école de mes enfants. Donc, ce que je peux dire de mon métier, c'est que mon métier est vraiment bafoué par ces étudiants et ces fonctionnaires qui laissent leur plein droit pour venir rester sur le marché nous déranger. J'interpelle le syndicat des moto-taximens, par exemple de la ville de Marois, de mettre un point sur cela, c'est-à-dire si un étudiant décide de faire la moto, il doit faire partie du syndicat. Là maintenant, il est moto-taximen confirmé. Donc, on doit prendre le moto taximen au sérieux et on doit donner le métier de moto taximen aux personnes alliées.
Concernant la relation entre propriétaire et moto taxi, moi, passe une bonne relation. On entretient une bonne relation avec mon patron, même si c'est vrai, nous sommes nombreux, mais je parviens quand même à m'en sortir. Des fois, je sors, je me trouve avec un 5000, un 7000. Donc, et même arrivé au contrat, même si l'argent n'est pas tout en condition, j'essaie quand même de me dialoguer avec lui. Là, on va essayer de prolonger quand même un peu le délai.
Bonjour, moi c'est Saïbou Amakabaï. Il y a beaucoup de jours maintenant, des années, que je suis un moto taximan dans la ville. Parce que quand je fais ça, vraiment je suis erré. Puisque quand on est dans la ville là, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Mais quand ils travaillent, si tu veux vraiment travailler, il n'y a pas de problème. Tu n'auras aucun problème, toi et ton patron. Pourquoi? Parce que quand tu travailles bien, la ville est devenue aujourd'hui gros. Partout, il y a le moto-taximan. Mais le problème est que quand tu travailles, il y a les étudiants partout, tu les amènes, il y a les enfants de l'école, ce qui fait que tu vas toujours bien travailler. On m'a donné un moto-contrat et je n'ai jamais eu de problème avec mon patron. Parce que j'ai toujours régulièrement versé son argent. Je donne souvent, même s'il est fixé à 20 000, souvent il m'arrive même de donner plus pour que je parvienne à vite finir. Et du coup, je finis le contrat avant le temps même. Généralement, le contrat que je prends, ce sont des contrats qui se signent à base de 11 ou 10 mois. Et je finis à 8 mois même parce que je renforce l'argent, je verse beaucoup, beaucoup. Et je finis vite. Une fois que j'ai fini, et je peux même voir donc vendre la moto et acheter une autre. Donc, si aujourd'hui quelqu'un dit qu'il a des problèmes avec son patron, c'est parce que lui-même il veut. Moi, je dis ça. Parce que au niveau du moto-taxi, il y a l'argent. Même les fonctionnaires même ne peuvent pas avoir l'argent que nous on a. Personne ne peut vraiment avoir l'argent là. Donc, c'est un noble métier. On se réjouit. Tout ce que je peux dire, j'interpelle donc moto-taxi, même d'être d'abord clément envers eux-mêmes, d'être véridique et prendre aussi leur métier à deux mains. Puisqu'il y a le moto-taxi, quand la personne sort, il part, il reste à causer toute la journée. Il ne travaille pas. Il revient, dit qu'il n'a pas l'argent. C'est normal que le patron se révolte. Donc, sinon, quand même, une relation est censée être bonne comme ma part.
Pour ma part, les relations sont un peu tendues. Pourquoi? Parce que depuis que je commençais à faire la moto, j'ai eu pas mal de problèmes avec mon patron. Bon, pour mon cas, je suis orphelin. Je travaille la moto pour subvenir à mes besoins, à la fois à la besoin de ma famille. J'arrive quand même à joindre deux bouts pour remettre... attend le contrat, mais depuis que je commençais, il y a de cela quelques mois, il a confisqué ma moto pendant quelques temps, mais je parviens quand même à joindre les deux bouts. Mais il faut quand même le patron aussi regarde aussi les situations de nous, les moto-taximans, surtout le cas de nous comme les orphelins. Nous parvenons à travailler pour à la fois pour notre famille et aussi pour eux.
Nous avons rencontré le président régional du syndicat des mototaximans pour l'Extrême Nord. Il a plus de 25 ans d'expérience dans ce métier et est aujourd'hui un moniteur et responsable des mototaximans. Écoutons son entretien.
Je m'appelle Sandy Guillaume, le président régional des mototaxis à l'Extrême Nord.
Monsieur Sandy, pouvez-vous nous dire comment est-ce que le syndicat enregistre les mototaximens et qu'est-ce que le syndicat fait pour eux en tant que président régional?
Bien, lorsque les conducteurs de mototaxis viennent vers les lieux dits, c'est-à-dire les lieux d'enregistrement au niveau des communes, soit Maroua 1er, soit Maroua 2e ou soit Maroua 3e, le conducteur vient avec soit les dossiers de la moto, soit la facture de la moto. Il se fait enregistrer au niveau des communes. Après, il reçoit un numéro qu'on va porter sur son choisible et sur sa moto. À partir de là, il va commencer à exploiter son métier.
Et vous aussi, c'est à partir de là qu'il est membre du syndicat?
Oui, c'est à partir de là qu'il est reconnu, à partir du numéro qu'il porte sur son gilet et sur sa moto, que les contrôleurs peuvent déjà l'identifier, qu'il s'est fait enregistrer dans telle et telle commune. Ou un peu, donc, de cette manière que ça fonctionne.
Et là, quel est le rôle des syndicats? Qu'est-ce que le syndicat fait pour ces mototaximens-là?
Oui, le syndicat veille, contrôle, parce qu'il y a les vols de motos ici dehors. Lorsque vous êtes enregistré, c'est une très belle chose. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un cas d'agression, il y a un cas de vol. C'est à travers l'enregistrement qu'on peut vous identifier et connaître que la moto appartient à telle personne ou à tel conducteur. Vous pouvez habiter soit peut-être à Dougoué, soit à Méry, soit à Godola, soit à Miskine, un peu partout, à travers l'identification, à travers l'enregistrement.
Et là, est-ce que vous pouvez nous parler de comment est-ce que vous parvenez souvent à gérer, vous intervenez dans les problèmes que les mototaximens ont avec les propriétaires des motos?
Bien, ces problèmes sont variés parce que vous allez trouver que le propriétaire des motos a des fois des problèmes avec son conducteur lorsque le gars ne respecte pas les conditions qui se sont établies. Ou un peu. Au début, ils se sont fait peut-être un contrat. Le gars de moto ne respecte pas, ne ramène pas la recette comme ça a été établi. Alors, le propriétaire sera obligé de reprendre sa moto. Il y a des fois où les propriétaires des motos qui sont souvent un peu malhonnêtes. Le gars de moto taxi va s'arranger, ayant un objectif, va s'arranger à remplir les modalités qui se sont entendues avec le propriétaire de la moto. Lorsque la recette est déjà presque à la fin, peut-être se sont arrangés à 600 000 et que le gars a déjà fait un versement de 500 forts, 580 000. Le propriétaire de la moto, lorsqu'il voit la moto est bien entretenue par le conducteur, il commence à chercher des problèmes au point où ils doivent casser afin qu'il récupère la moto. Donc, ces problèmes là sont variés. Des fois, on trouve la malhonnêteté de la part du gars, du conducteur de la moto. Des fois, on trouve aussi la malhonnêteté qui provient de la part du propriétaire de la moto. Donc, c'est vice-versa. Alors, pour être honnête, le gars qui veut prendre un engagement, qui veut récupérer sa moto dans l'honnêteté, il doit faire l'engagement auprès des autorités compétentes, c'est-à-dire au niveau de la sous-préfecture ou du commissariat, d'une gendarmerie, au point où, lorsque le propriétaire veut déjà déranger et qu'il a fait bien les versements, il va se prononcer au niveau du commandant de brigade. Bon, voilà, c'est que nous sommes entendus et le propriétaire veut déjà me déranger. Alors, il aura le dessus. Mais sinon, ce qu'on fait dans le sous-quartier, ce n'est pas le contrat. Le contrat qu'on fait entre toi et moi, qui est témoin, d'un jour à l'autre, je peux prendre le dessus, n'est-ce pas? Alors, ça doit se faire au niveau du commissariat ou à la brigade ou peut-être à la sous-préfecture qui pourront témoigner que ceux qui ont fait un contrat, voilà un papier légal qui prouve que voilà ce qui existe entre eux.
Et est-ce que vous avez déjà eu des demandes féminines pour se lancer dans ce métier-là? Sinon, pourquoi?
Vous me laissez un sourire, hein, parce que vous qui êtes même devant moi là, rendez-vous compte, même votre petit téléphone là avec lequel vous me... Si ça me plaît bien, il suffit que ça me vient mal dans la tête, je ramasse ça. À plus forte raison, vous pouvez vous voir sur la moto en disant « mototaximène ». Ma soeur, dis-moi que vous avez donné la moto là cadeau.
C'est le risque que...
Non, c'est un risque. Une femme qui va faire moto-taxi... Moto-taxi, je dis bien, ici à Maroua. Pour elle, vraiment, c'est un risque qui ne dit pas son nom. Voilà. Donc, elle ne doit même pas tenter de se lancer dans le métier. Parce que les hommes même ne parviennent pas à s'échapper. À plus forte raison, les femmes. Donc, ce n'est pas possible. Je ne conseille pas. Je ne conseille pas pour le côté femme.
Aussi, dites-nous, aujourd'hui, on voit aussi des enfants qui se lancent dans ce métier-là. Qu'est-ce que le syndicat fait à ce niveau?
Bien, vous allez m'excuser. Nous sommes dans un milieu, dans une région où vraiment le chômage vraiment bat son plein. Et un enfant qui n'aimerait pas voler, qui n'aurait pas commandé et qui a une moto disponible, hein, la moto de son grand frère là qui est disponible avec laquelle il peut attaquer. Il est obligé de se lancer puisque c'est un métier qui ne demande pas un diplôme. C'est un métier qui ne demande pas un concours. Ouais. Et des fois même, c'est même pas, même la carte dentaire là même, on ne voit même pas ça. On se lance dans le métier comme ça parce que le taux de chômage, quand ça bat déjà son plein, on ne se contrôle pas, on est obligé de se lancer dans ça. Vous allez trouver même quelqu'un, il ne connaît même pas le code de la route, il n'a même pas la capacité, il a vendu ses tomates, il a 300, 400 000.
après la vente de ses tomates et niébé et autres, n'est-ce pas? Il se lance dans la forêt, il perd sa moto. Deux, trois jours, il part faire un entraînement dans le village. Il revient le lendemain, il part s'identifier. Il identifie sa moto et il se met dans le métier. Donc, ça ne demande pas un diplôme hein, pour éviter le chômage. Vite à que nous nous lancions dans ce domaine. Comment toi, tu vois? Voilà.
Mais pour finir, un mot aux propriétaires de moto et aux mototaximens pour qu'ils travaillent bien tous ensemble.
Bien. Qu'on enlève l'esprit de malhonnêteté. Que le propriétaire amène le conducteur vraiment à un bon raisonnement. Qu'il fasse comprendre que je te donne la moto, tu dois avoir un objectif et ça doit être ta moto demain. Ça doit te servir demain. Et le gars de moto aussi, lui aussi qui s'engage pour ce contrat, doit comprendre que s'il gagne la moto là, il pourra aider sa famille. Il pourra entretenir sa famille. Il pourra faire sa vie à travers cette moto. Ou peut-être, je ne sais pas, payer peut-être une maison, faire autre chose. Hein? Donc il ne pourra plus quémander ou peut-être se rendre dans un milieu de vol parce qu'il a, sa petite moto qui l'amène 200, 300 par jour. Mais il ne va plus s'intéresser à faire du mal, le vol et ainsi de suite.
Okay, merci monsieur.
Oh, c'est le président de régional de mototaxi qui vous remercie. Et nous sommes ravis du fait que vous cherchez un éclaircissement en ce qui concerne l'exploitation, l'activité que nous menions. Donc il s'agit de mototaxi.
Ok, merci beaucoup. Nous l'avons compris, soyons vigilants pour mieux exercer le métier de moto-taximan. Trouvons toujours un témoin pour la signature des contrats pour plus d'assurance. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour votre émission Interline. Avant de vous quitter, je vous rappelle l'équipe sur place. Coordination David Bayan, je suis Zuhaira Touyaya. Merci de nous avoir écoutés et restez scotchés sur la radio Série.